Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, le Seigneur est en train d'appeler les disciples et il fait ce qu'il est venu faire habituellement, prêcher, appeler, instituer son Église pour que nous-mêmes, nous puissions écouter, obéir et le suivre. C'est mon plan. Je vous propose de voir tout simplement ce qui se passe, d'abord de la part du Christ, puis ensuite de la nôtre, car l'un et l'autre sont évidemment un enseignement pour nous. Tout d'abord, regardons le Christ qui prêche, qui appelle et qui institue. D'abord, il prêche. Il prêche assis sur la barque. Assis, c'est un signe d'autorité, vous le savez bien. Peut-être pourriez-vous vous demander dès lors pourquoi nous prêchons debout. Eh bien, justement, seul l'évêque prêche assis, signe de l'autorité du Christ, et c'est en signe d'humilité, de soumission à celui qui prêche assis, que le prêtre prêche debout devant vous, mais vous qui êtes assis, donc dans une position d'autorité, même si ce n'est pas liturgique, vous pourriez parfaitement être debout. Bref, le plus important, c'est que le Seigneur enseigne et que le Seigneur révèle quelle est sa mission, quelle est son action et quels en sont les fondements et les moyens. Et oui, ça peut paraître banal, mes bien chers frères, mais dans un siècle comme le nôtre, un peu comme tous d'ailleurs, ferveur de secrets, de petites entourloupes, de sectes diverses et variées, il nous faut affirmer avec force que nous n'avons rien à cacher, que les chrétiens prêchent depuis toujours ce qu'ils ont à dire, à révéler au monde, et que tout est déjà donné, la vérité qui est le Christ nous est donnée, et même si nous n'avons pas fini d'y réfléchir et d'en tirer des conséquences diverses, et tout est déjà ici annoncé. Il n'y a rien de caché, rien d'ésotérique, rien d'initiatique. Je crois que vous m'avez compris. Nous ne sommes pas une secte et nous ne l'avons jamais été et nous ne le serons jamais. Le Christ prêche et il enseigne certes en parabole souvent, mais non pas afin de cacher, comme l'ont compris certains esprits pervers et pseudo-gnostiques, mais au contraire pour mieux expliquer. Quand vous racontez la chèvre de Monsieur Seguin à vos enfants, ce n'est pas pour leur cacher la vérité, c'est pour leur faire mieux comprendre, compte tenu de leur âge, qu'il y a danger à s'éloigner de ses parents. Voilà. Ça, c'est le Christ qui prêche. Ensuite, le Christ appelle. Le Christ appelle ses disciples, car il est venu pour fonder son Église. Aussi, il a besoin de travailleurs pour son œuvre. Et il les appelle, peut-être... Cela ne vous étonne plus, parce que le problème, c'est qu'on lit trop souvent les évangiles ou qu'on ne les écoute pas vraiment, c'est qu'il les appelle en plein travail. C'est-à-dire, il les dérange. Ils viennent de travailler toute la nuit. Ils ont autre chose à faire. Il faut qu'ils rangent leur bateau, leur matériel, leur filet. Ça se lave, des filets. Et c'est là qu'il les appelle. C'est là qu'il a besoin d'eux. Oui, mes bien chers frères, le Seigneur n'est pas venu chercher des oisifs, des feignants de toutes sortes qui n'auraient rien à faire, qui dès lors pourraient éventuellement se dédier au service du Seigneur. Non, le Seigneur est venu les chercher en plein boulot, en pleine activité. Alors dites-vous bien que c'est ça notre nature, c'est le travail. Et dites-vous aussi, parce que je l'entends parfois, « Ah alors, quand je serai vieux, quand je serai vieille, quand je serai à la retraite, eh bien, je travaillerai pour le Seigneur. » C'est faux. Si vous ne travaillez pas pour le Seigneur maintenant, vous ne travaillerez jamais. Parce que si vous êtes un ouvrier feignant, vous serez un retraité feignant. Si vous êtes un ouvrier ardent, eh bien, vous serez un retraité ardent, même s'il faut prendre le virage pour changer peut-être. Mais le travail, ça se travaille, c'est-à-dire... C'est ça qui est intéressant, c'est l'œuvre de Dieu qui se réalise en nous et c'est ce que le Seigneur nous a donné de faire pour coopérer au monde. Et voilà pourquoi il vient chercher des ouvriers en plein travail alors qu'ils sont harassés, fatigués, surchargés et il leur demande de s'occuper de l'Église. Oui, le Seigneur vient nous appeler au plus profond de nos activités humaines car croyez-le bien, tout ce que vous ferez de l'apostolat, tout ce qu'un prêtre peut prêcher de surnaturel n'est posé que sur une seule chose. Bien sûr, c'est suscité par la grâce divine, mais c'est posé sur sa nature humaine. J'ai coutume de le dire, c'est parce que les ordinations arrivent, alors je fais une petite incise, mais vous ne le répéterez pas. Quand on est con et qu'on est ordonné, eh bien, on est un prêtre con. Voilà. Eh bien, sûrement qu'il n'y en a pas. mais je parle pour moi, évidemment, mais la grâce parfait la nature selon le mode de la nature, et pour vous c'est pareil, quand vous recevez des grâces divines qui vous donnent de coopérer à l'œuvre de Dieu, c'est selon ce que vous êtes. Voilà pourquoi, vous le savez bien, déjà chez les petits enfants, on essaye d'exciter les vertus naturelles, car c'est sur elles que va s'exercer la vie de ces enfants. Enfin, après avoir prêché et appelé, le Seigneur confie son Église. Il dit à Pierre qui s'étonne, il dit à Pierre qui s'inquiète, et il a bien raison, le pauvre Pierre, il lui dit que c'est par sa grâce qu'il sera pêcheur d'hommes. Lien bien sûr avec son métier, lien bien sûr avec ce qu'il sait faire, mais aussi ouverture à une dimension spirituelle, une coopération surnaturelle. Le Seigneur a voulu que son Église soit la continuation de son œuvre sur terre, et même, c'est une incroyable disposition de la providence divine, car le Seigneur aurait pu terminer le monde au moment de sa venue sur terre. Vous le savez, si on devait représenter par un schéma la venue du Christ, c'est le sommet de l'histoire. Il y a eu la création, puis la chute, puis la réappropriation avec Israël du plan de Dieu, et enfin, sommet de l'histoire, le Christ venu sauver le monde. Eh bien, le monde aurait pu se terminer là, mais non, le Seigneur a voulu que se poursuive dans le temps ce sommet par le moyen de ses apôtres et de son Église. Le Seigneur a voulu avoir besoin de nous, lui qui n'a strictement en toute justice besoin de personne, car c'est un être nécessaire et non pas suffisant, et donc il se suffit à lui-même, il n'est pas contingent. Eh bien, il a voulu qu'au cours de la réalisation des temps, nous soyons cette Église, c'est-à-dire son corps mystique répandu dans le monde jusqu'à l'Apocalypse pour sauver les hommes. Oui, nous ne faisons pas seulement notre salut en connaissant le bien, il nous est donné de coopérer à l'œuvre divine qui est de remettre le monde à Dieu et de sauver les âmes. La mission qui vous est confiée, vous qui êtes appelés aussi à la vigne du Seigneur, est de grande importance, quel que soit votre état de vie, que vous l'ayez déjà choisi ou pas. Si vous ne l'avez pas choisi, évidemment, il vous faut considérer tous les états possibles, le mariage, le célibat pour le royaume, la vie religieuse, la prêtrise. Bref, il faut tout considérer pour savoir le meilleur, là où vous rendrez plus de gloire à Dieu. Mais si vous avez déjà reçu cet appel, comme c'est mon cas, je suis déjà engagé, et ceux qui sont engagés, eh bien, le sont aussi dans la vie pour toujours, vous devez encore vous demander aujourd'hui, pratiquement, quels sont les appels ponctuels que le Seigneur envoie, car tout vient de Dieu pour coopérer à son œuvre. Voilà, c'était mon premier point, le second sera plus court, je vous le promets. Le Seigneur prêche, appelle et institue, fortifie son Église. Que devons-nous faire en quelque sorte? C'est très simple. Ce que firent les apôtres. Écouter, obéir et le suivre. Écouter, bien sûr, c'est-à-dire se mettre à l'écoute de la parole divine qui se transmet dans l'Écriture sainte, qui s'explique dans la prédication, le catéchisme et qui se reçoit fondamentalement dans l'Eucharistie, parole vivante, pain vivant descendu du ciel. Oui, mes bien chers frères, mettez-vous à écouter comme les foules écoutèrent le Seigneur, mettez-vous à écouter le Seigneur de tout votre cœur. Ne croyez pas que parce que vous avez fini votre temps de catéchisme, eh bien vous en avez fini avec la formation religieuse. Je n'ai pas terminé avec la mienne. Alors, il y a des chances pour que vous n'ayez pas complètement terminé la vôtre non plus. Nous n'aurons pas assez de toute notre vie pour lire les trésors de la théologie chrétienne. Le saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, saint Anselme, vous voyez, je suis très large, pour lire tous les spirituels de l'Église catholique, sainte Thérèse d'Avila, saint Ignace de Loyola, saint Jean de la Croix, saint François d'Assise, bref, qui que vous vouliez, nous n'aurons pas assez de notre vie pour découvrir la profondeur et l'incroyable richesse de cette théologie. Alors, je prie pour que nous ne soyons pas des incultes, que nous soyons en mesure de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Rendre compte, en grec, le dit Pierre, c'est logikeien, c'est-à-dire ordonner logiquement par la raison quelle est notre foi. il n'y a pas de dissension entre la foi et la raison, et vous êtes invités à connaître sans cesse et à rendre compte de votre foi. Oui, mais pour cela, il faut que vous vous y mettiez. Ça tombe bien, c'est les vacances. Eh bien, je vous recommande de partir, ou que vous partiez, avec un livre spirituel sous le bras. On lit bien des romans qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, on lit des livres parfois qui ne sont que des tas d'ordures. Alors, prenez un bon livre et formez votre esprit. Car, vous le verrez, le monde gémit, comme le dit saint Paul, dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. C'est incroyable, l'incommensurable ignorance crasse de ce monde regardant la religion. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Vous ouvrez le journal ou vous entendez quelqu'un ouvrir la bouche et dire « Ah oui, les catholiques, ils pensent ça. » Ou « La doctrine de l'Église, c'est ça. » Et en général, c'est faux. Alors, il vous suffit de lire le catéchisme de l'Église catholique. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans de la théologie, je crois que c'est un condensé, tout y est. Mais lisez le catéchisme de Saint-Pie-X, lisez le catéchisme de Jean-Paul II de 92, lisez ce que vous voulez, mais formez-vous, afin que vous puissiez élever le monde et ne pas le laisser dans cet état d'ignorance qui lui vaudra eh bien, de ne pas connaître Dieu, c'est-à-dire de ne pas vivre avec lui. Voilà, c'est la formation. Il nous faut encore obéir, c'est-à-dire une écoute zélée. Si j'ai mis l'accent sur la formation, ce n'est pas pour s'enorgueillir et penser que c'est nous qui allions tout diriger, non. Il nous faut écouter le Seigneur qui parle à travers les prêtres, qui parle à travers la hiérarchie de l'Église. Cela ne veut pas dire que les prêtres ne peuvent pas se tromper, que les évêques ne peuvent pas se tromper, que parfois le pape ne parle pas toujours de manière définitive. Mais cela veut dire que nous devons l'écouter avec déférence et comprendre ce que l'Église veut. Et si d'aventure, je ne vous invite pas à être niais ou naïf, hein, je vous invite à aimer, c'est-à-dire à vous mettre en dessous. Ob audire, obéir, c'est écouter d'en dessous. C'est écouter sans orgueil, c'est écouter sans penser que c'est d'abord moi qui ai raison. C'est ça l'obéissance. Voilà pourquoi les petits-enfants qui sont petits sont obéissants, j'en suis sûr. En tout cas, qu'ils devraient l'être, ou qu'ils espéreraient l'être. Mais soyez obéissants de la foi et vous découvrirez vraiment le sens. Et si, bien sûr, par hasard, je devais dire une erreur, il paraît que j'en ai dit une la semaine dernière en venant à Notre-Dame des Armées, mais c'était un lapsus, eh bien, quelqu'un me l'a dit, et il a bien fait. Comme ce n'était pas une erreur théologique, j'ai quand même diffusé mon homélie. Mais je peux me tromper. Alors si je me trompe, vous faites comme on fait avec un père. Vous venez me trouver en disant « Monsieur l'abbé, je me demande si vous ne vous êtes pas trompé à cet endroit. » Et si je persiste dans mon erreur, si je ne m'en rends pas compte, eh bien il faut en rendre compte à l'abbé de la Motte, qui est le curé de cette paroisse, etc. Voilà comment on fait dans l'Église, avec charité et douceur bien entendu, mais ne vous inquiétez pas, la sainte doctrine du Christ se doit d'être transmise, car c'est la vie. Enfin, et je finis peut-être sur le plus difficile, il vous faut suivre le Christ. C'est-à-dire, vous avez entendu ici la parole de l'évangéliste, ils quittèrent tout et le suivirent. Alors bien sûr, devant cette parole un petit peu radicale, vous pouvez prendre peur et vous dire, ouh là là, tout, tout, tout. Rassurez-vous, quand j'entends cette parole, moi aussi, j'ai peur. Bien sûr, je pourrais me défausser assez facilement en disant, tout, tout, tout quitter. Bon, alors, c'est pour les moines. C'est pour les moines chartreux, c'est pour les moines bénédictins qui sont invités absolument à tout quitter. Et c'est vrai, ils quittent tout d'une manière plus radicale que moi encore, ils quittent ce monde. Mais voilà, s'ils quittent formellement le monde, matériellement toute chose, c'est pour nous montrer que c'est possible et que nous y sommes invités. Et moi, je suis aussi invité à quitter mon travail, c'est ce que j'ai fait, pour me mettre au service de l'Église. Mais vous aussi, si votre vocation est dans ce monde, vous êtes invité à tout quitter, mais pas matériellement. Vous êtes invité à tout quitter spirituellement, ce qui est encore plus dur en un sens. Possidentes quasi non possidentes, dit saint Ignace de Loyola, c'est-à-dire possédant les choses de ce monde nécessaires comme si vous ne les possédiez pas, ou plutôt comme si vous les possédiez uniquement en vue du règne de Dieu. alors seulement vous en ferez non pas un bagage encombrant qui de toute façon risquerait de pourrir, mais vous en ferez le moyen d'annoncer au monde la foi en finançant de bonnes œuvres, en vous occupant d'abord et surtout de votre famille et en faisant subsister le bien dans ce monde, mais vous êtes en tout cas, quelle que soit votre vocation, appelé à tout quitter, car si vous n'avez pas choisi l'unique nécessaire, vous n'avez encore rien choisi. Il est temps, il est grand temps de choisir le Christ, de l'écouter, de lui obéir et de lui se mettre à son service, afin que vous puissiez un jour entrer dans l'éternité, non pas les mains vides, mais avec une foule innombrable de personnes que vous aurez rencontrées et à qui vous aurez tout simplement transmis la vie en leur transmettant la vie divine. Ainsi soit-il.